France Inter. Mathilde Munoz.
Il est 6h21. Après l'affaire des viols de Mazan, un nouveau procès de la soumission chimique. L'ancien sénateur Joël Guerriau est jugé aujourd'hui et demain devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir drogué à son insu une collègue, la députée Sandrine Josso. Et je reçois ce matin l'une des plus grandes spécialistes du sujet. Bonjour Leïla Chaouachi.
Bonjour.
Vous êtes docteur en pharmacie, experte nationale de l'enquête soumission chimique auprès de l'ANSM, l'Agence de sécurité du médicament. Alors là, on se focalise sur deux affaires emblématiques, médiatiques, Mazan et ce procès de Joël Guerriau. Mais ce ne sont pas des cas isolés, loin de là, et ce ne sont surtout pas de simples faits divers. Je sais que vous détestez qu'on dise que ce sont des faits divers.
Non, ce ne sont pas des faits divers. Effectivement, c'est un enjeu de santé publique, un enjeu de santé publique majeur qui s'inscrit aussi dans des violences systémiques. C'est très important de rappeler que la soumission chimique n'est qu'un mode opératoire criminel. Le phénomène, c'est celui des violences et notamment des violences sexistes et sexuelles qui s'exercent effectivement, contrairement aux idées reçues, souvent dans une sphère de confiance, la sphère privée, voire professionnelle ou amicale.
Oui, ces idées reçues, hein, vous les battez en brèche dans votre livre qui va sortir dans 10 jours. Hein, c'est mercredi de la semaine prochaine, justement, soumission chimique pour en finir avec les idées reçues. Ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas un épiphénomène qui renverrait la monstruosité de marginaux déséquilibrés. Non, ça peut être monsieur et madame tout le monde autour de chez nous, ça peut être avec des médicaments qu'on trouve dans la boîte à pharmacie, pas forcément des drogues illicites, il y a de tout et ça touche toutes les couches de la société.
Exactement. On continue à entretenir une idée reçue qui est vraiment tenace, selon laquelle les victimes seraient des imprudentes. Les victimes de soumission chimique sont celles qui laissent traîner leur verre comme ça et qui ne respectent pas les règles élémentaires de prudence, ne pas parler aux inconnus, ne pas rentrer trop tard le soir et puis ne pas trop s'alcooliser. Non, il faut le dire et le rappeler en permanence, les victimes de soumission chimique sont des victimes dont on a trahi la confiance. Ce sont des personnes qui ont laissé leur verre sous la surveillance d'une personne de confiance, qui vont accepter leur verre d'une personne de confiance ou qui vont effectivement laisser leur verre sans surveillance, mais dans un contexte qui a gagné leur confiance. Ce matin encore, dans vos studios, j'ai laissé traîner, comme on dit, mon café parce que je suis en confiance et on fait également confiance à l'inconnu. L'inconnu, nous le connaissons, c'est vous et moi, c'est n'importe qui et bien sûr qu'on se fait confiance.
Il est fréquent que les victimes culpabilisent donc ?
Énormément.
Elles le disent, ça, ouais.
Énormément, puisque déjà.
Elles disent, c'est de ma faute, j'aurais dû être
victimes,
plus prudente.
Toutes les victimes de violences, de façon générale, ont tendance à culpabiliser, a fortiori lorsqu'elles sont victimes de soumission chimique, parce qu'on continue à entretenir cette idée qu'il n'y avait qu'à faire attention en réalité. Il fallait garder son verre sous surveillance en permanence, et puis de plus en plus, on a des outils de réduction des risques, en tout cas présumés, qui vous disent, bah, mettez un capuchon de verre, mettez un vernis anti-viol, utilisez des bandelettes test, et vous verrez, le viol ne sera qu'un mauvais souvenir. C'est ne rien comprendre au mécanisme des violences. La violence, elle est systémique, elle est ancestrale, elle est patriarcale également. Et donc, c'est quelque chose qui, malheureusement, ne se combat pas avec des vernis anti-viol.
Les victimes sont en grande majorité, hein, vous le disiez, des femmes, et bien souvent, effectivement, pour des agressions sexuelles, pour des viols. Mais pas que. Il peut y avoir aussi des hommes, et il peut y avoir voilà, de la soumission chimique pour extorquer de l'argent, par exemple.
Bien
sûr.
Ça
peut arriver.
Alors déjà, les victimes, vous avez raison de le rappeler, elles sont de tout genre. Ce sont majoritairement des femmes. Il y a aussi des hommes et des personnes transgenres qui s'agissent
d'hommes. Des enfants aussi ?
Des enfants évidemment, mais que pour les personnes transgenres qu'il s'agisse d'hommes assimilés femmes à la naissance ou de femmes assimilées hommes à la naissance. Les enfants sont représentés dans les... Si on regarde l'historique de nos données d'enquête qui date de plus de 20 ans, la plus jeune des victimes a 4 jours et la plus âgée a 98 ans. Donc il n'y a pas non plus d'âge, tout comme il n'y a pas de violence spécifique. C'est un mode opératoire des violences. Violences sexuelles, mais aussi enlèvement, séquestration, vol, tentative d'homicide, infanticide, maltraitance chimique, traite des êtres humains. Il y a autant de faits criminels ou délictuels possibles qui n'en existent.
Qu'attendez-vous du procès qui s'ouvre aujourd'hui ?
Alors, les procès, on en attend d'abord justice, évidemment, mais ce qui est très important, c'est qu'il continue justement à éclairer les esprits et qu'il continue justement à susciter cet électrochoc au sein de la société. On le voit déjà depuis le hashtag Balance ton bar en 2021. On l'a vu avec la sortie du livre de Caroline Darian et J'ai cessé de t'appeler papa en 2021. Avec son mouvement M'endors pas. Et le procès des viols de Mazan, comme le procès actuellement, montre que c'est également dans la sphère privée et professionnelle et jusqu'au plus haut sommet de l'État.
Oui, vous dites éclairer les esprits, mais dans votre livre, on comprend bien que c'est une histoire vieille comme le monde. Hein. En tout cas, voilà, pour la France, vous donnez deux dates que je trouve importantes. Première alerte donnée par un médecin, vraiment une professionnelle, 1982. C'était une femme qui était médecin légiste à Marseille. C'était à propos d'enfants qui étaient assommés par les médicaments, par leurs parents. 1997, donc il y a 30 ans, Première enquête nationale. On a fait quoi depuis ?
Alors, on a fait beaucoup de choses depuis. La première chose, c'est bien sûr d'institutionnaliser une enquête nationale pharmaco-épidémiologique dont le maître d'œuvre est l'Agence du médicament. Mais pour cela, on parle surtout de vigilance sanitaire. On est en train de surveiller des tendances, mettre en place des réglementations pour réduire au maximum le détournement du médicament. Le médicament qui reste accessible, on parle de traiter les gens, mais il faut mettre en place ces verrous. On a mis en place évidemment des protocoles déjà à l'époque, aux urgences, etc. La difficulté, c'est comment les tenir dans le temps avec tous les enjeux qui se mettent en place. Et aujourd'hui, la force de la société civile, c'est d'imposer leur calendrier et de dire qu'aujourd'hui, il y a urgence à gérer ces situations. Donc, c'est comme si on vous disait, ça fait très longtemps qu'on parle d'inceste, mais qu'avons-nous fait depuis ? Pour ça, il faudrait que les violences nous concernent au premier niveau. Il faut que la société entière change. Et donc, merci MeToo et merci toutes ces ramifications, notamment le MeToo GHB et aujourd'hui le Mandorpa. Et puis ensuite, le fameux Sénatopor qu'on a vu circuler.
Et puis, pour vérifier qu'il s'agit bien d'une soumission chimique, il faut que les victimes sachent à qui s'adresser. On fait quoi quand on a une suspicion ?
Alors,
On va voir son médecin, pharmacien, si ça arrive en pleine nuit, on fait comment ?
Alors, ce qui est très important, c'est qu'il faut relativiser également l'urgence. Bien sûr, il faut agir rapidement, mais il faut d'abord avoir la bonne information. Et pour le moment, nous avons un formidable centre, donc, qui s'appelle le Centre de référence sur les agressions facilitées par les substances.
Le CRAFS que vous avez fondé.
Tout à fait, donc le CRAFS qui, lui, justement, permet d'orienter les victimes en fonction de leurs besoins, en fonction de leur temporalité, en connaissance du maillage territorial, puisque chaque conseil est différent. D'une région à l'autre, parfois d'un département à l'autre. Mais aujourd'hui, il y a quand même une bonne nouvelle sur trois régions, Île-de-France, Hauts-de-France et Pays de la Loire, où une expérimentation est mise en place suite à l'amendement qui a été déposé par la députée Sandrine Josso. Et aujourd'hui, nous pouvons, dans ces régions-là, se rendre directement auprès d'un médecin qui fera les examens nécessaires et puis les prescriptions pour les prélèvements nécessaires.
Et pour les autres régions, donc le CRAFS, C-R-A-F-S, voilà, c'est 5 lettres très importantes. Et parce que 6 minutes ne suffisent pas, Leïla Chaouachi, j'invite les auditeurs à lire votre livre, un livre écrit justement pour que la honte change définitivement de camp et pour en finir avec les idées reçues. Il sort mercredi de la semaine prochaine chez Lattès.